ça.
Jusqu'à 14h, histoire et patrimoine de Normandie avec Julien Cruet sur France Bleu.
Le musée secret de la franc-maçonnerie chez Grunthe. Qui sont les francs-maçons? Paru chez Omnibus, ce sont deux des livres de notre invité cette semaine. Il s'agit d'Emmanuel Thiébaud, historien normand, qui nous propose une vision assez inédite, un coup d'œil inédit sur les francs-maçons dans la région, dans l'Orne et le Calvados. Aujourd'hui, on s'intéresse à une période bien difficile pour les francs-maçons, celle de l'occupation. Emmanuel Thiébaud.
Alors elle est doublement menacée puisqu'elle est interdite par les nazis, donc il y a bien longtemps qu'en Allemagne ils l'ont interdite. Et en France, le régime de Vichy, évidemment, étant un régime anti-républicain, hein, lorsqu'il va se mettre en place, l'une de ses premières mesures, alors que la France vient de perdre quand même sa plus grande défaite depuis très longtemps quand même de son histoire, en juillet et août 40, l'une des premières mesures que Vichy, ça va être de promulguer la dissolution de ce qu'il appelle les sociétés secrètes, au sens large, qui en fait concerne toutes les obédiences maçonniques, toutes confondues, aucune n'a plus le droit d'exister. Progressivement, on va même jusqu'à exclure et révoquer principalement beaucoup de métiers de la fonction publique, mais surtout l'enseignement, les francs-maçons, considérant qu'il ne faut plus que ces gens inculquent des valeurs contraires, évidemment, à l'idéal de la Révolution nationale. Et ainsi, on va avoir beaucoup de directeurs d'école, d'instituteurs, de professeurs révoqués, et y compris dans la région, on en voit énormément, parce qu'ils étaient francs-maçons, ils perdent leur travail du jour au lendemain, ou ils sont mis à la retraite d'office ou par anticipation. Rien que si on prend pour la loge Thémis à Caen, ce sont les chiffres que j'avais retrouvés, on en retrouve 19 dans la résistance, il y en a une douzaine qui sont prisonniers de guerre, 7, peut-être même plus, en fait, révoqués de la fonction publique parce que francs-maçons. Et pareil, on peut prendre l'exemple, si on franchit les frontières du Calvados pour aller dans l'Orne, aller voir la loge La Fidélité, qui était la loge la plus importante d'Alençon. Là, on voit deux, trois frères de la loge qui sont révoqués parce que francs-maçons et parce qu'ils étaient instituteurs ou qui travaillent dans l'enseignement. Et ce qui est intéressant, j'ai pu retrouver le cas de plusieurs frères qui étaient sur les fameuses listes d'otages que Vichy avait demandé à tous les préfets pour, en cas de représailles, on puisait dans ces listes d'otages à fournir aux Allemands. Et cela signifierait, mais il y a un gros travail qu'il faudrait faire et que à ce jour aucun historien n'a pris le temps, parce que ce serait fastidieux à faire, c'est-à-dire de comparer les listes des otages avec des appartenances maçonniques. Car je pense que même si les francs-maçons n'ont jamais été arrêtés et déportés parce que francs-maçons, sur plus de 60 000 déportés de répression avec l'équipe qui travaille à Caen, qui a fait ce travail, n'ont plus identifié qu'un seul cas de quelqu'un qui aurait été déporté parce que francs-maçons, ce qui est quand même plus qu'un film. En revanche, il pourrait être possible que le fait d'être franc-maçon et d'avoir été repéré comme tel vous ait, comment dire, fait repérer
votre cas
pour être inscrit sur une liste d'otages potentiels comme un opposant communiste, résistant, gaulliste, tout ce que vous voulez. Et il y a deux des frères que j'ai retrouvés sur la liste d'otages, dont on peut aussi expliquer l'une des raisons, c'est-à-dire que ce sont deux frères de la loge d'Alençon qui ont eu un rôle important dans l'Orne lors de l'accueil des réfugiés républicains espagnols dans le département, qui les ont beaucoup aidés. Et donc là, on peut imaginer que ce soit aussi à ce moment-là qu'ils étaient repérés à l'époque comme activistes, peut-être sympathisants, pro-communistes, beaucoup de républicains espagnols étaient proches des mouvements communistes. Donc ceci peut peut-être expliquer cela, ce qui permet aussi de rappeler cet altruisme donc de ces hommes qui ont donc ainsi aidé les réfugiés républicains espagnols de l'Orne. Les rares francs-maçons que j'ai retrouvés déportés, parce qu'il y en a eu, l'ont été soit parce qu'ils étaient juifs, soit parce qu'ils étaient résistants, et ce sont ces deux qualités qui ont primé, évidemment, sur les motifs de leur déportation.
Voilà, il reste donc du travail pour les historiens de cette période. Dans un instant, retrouvez Emmanuel Thiébaud, spécialiste de la franc-maçonnerie. On va parler avec lui de l'après-guerre et de la reconstruction en Normandie pour cette société secrète. Concert de Kenji Girac qui sera en concert au mois de mars au Zénith de Caen le 6 mars et ensuite le 14 octobre. L'occasion pour ces deux dates ouvertes.
Histoire et patrimoine de Normandie jusqu'à 14h avec Julien Cruet sur France Bleu.
Comment la franc-maçonnerie s'est-elle remise de la période de l'occupation, période pendant laquelle cette société secrète a été interdite? Et bien, c'est ce qu'on voit à présent avec Emmanuel Thibault, historien normand, qui a publié plusieurs ouvrages sur la question. Et comme bon nombre d'autres secteurs, et bien la franc-maçonnerie, à l'époque, doit se reconstruire dans la région à l'issue de la bataille de Normandie.
À la Libération, en fait, la franc-maçonnerie normande est dans le même traumatisme que la franc-maçonnerie au niveau national. Et on peut considérer que, comme pour le reste de la France, il faut compter 25-30 ans pour que la maçonnerie renaisse vraiment et reprenne un petit peu une place dans la société.
Déjà concrètement, vous dites que le local de la loge Thémis, hein, vieille loge à Caen, le local est détruit.
Ah, il est complètement détruit, parce que la rue Neuf-Saint-Jean, en plein centre-ville, évidemment, fait partie des rues qui sont détruites. Donc, on voit les frères qui vont se réunir chez l'un d'entre eux dès septembre 1944 pour essayer une petite poignée de donner renaissance à la maçonnerie localement. Et ils vont ensuite se réunir, parce que c'est trop petit chez le frère qui les accueille, dans un cabaret qui est un logement provisoire, enfin un cabaret provisoire en bois qui va se promener, qui n'est pas franc-maçon lui, mais qui est sympathisant. Et donc, le dimanche, il dit « Bon, bah voilà, je vais me promener avec ma femme sur la côte et puis je vous laisse les clés du local, faites ce que vous voulez. »
C'est un peu précaire.
Et c'est un peu précaire. Et il faut attendre, en fait, novembre 1945 pour que, dans le cadre des dommages de guerre, un baraquement soit enfin alloué spécifiquement donc à la loge pour qu'elle puisse se réunir en tant que loge dans un baraquement provisoire.
Donc officiellement.
Officiellement, exactement.
La loge maçonnique à Caen a pignon sur rue.
Elle a pignon sur rue et en 1953 sont inaugurés définitivement les locaux de la rue Neuve Saint-Jean, de laquelle donc les loges maçonniques ont déménagé il y a un peu plus d'un an maintenant.
Quasiment en centre-ville avec
en centre-ville.
Une existence officielle. Et avec quel objet, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les francs-maçons dans la région, ils existent pourquoi ? C'est pas un club pour jouer aux cartes, quoi.
Non, c'est exactement, on est dans la même logique que ce que la franc-maçonnerie a toujours été, donc essayer de réfléchir à comment améliorer la société. Principalement, fin des années 50, une première volonté d'extériorisation de la maçonnerie pour se faire connaître et dire coucou, on existe encore, malgré tout ce qu'on a pu subir. Faut pas oublier que les loges avaient été pillées, le local par exemple à Caen pendant la guerre avait servi pour les requis qui étaient chargés de garder les voies ferrées ou les poteaux télégraphiques qui étaient réunis là, donc tout le mobilier avait été enlevé. À Alençon c'est pareil, hein, le mobilier avait été enlevé. C'est
la loge La Fidélité à Alençon.
La Fidélité, c'est Almire Vielle qui va contribuer à faire renaître la loge matériellement et, j'irais, intellectuellement. Et donc, dans les années 50, vous avez un grand colloque qui va être organisé sur la question de la crise rurale. Qu'allons-nous faire des campagnes et ça peut se comprendre, puisque, évidemment, la Basse-Normandie est quand même touchée de plein fouet par cette crise rurale. Et c'est intéressant de s'apercevoir que les francs-maçons prennent le sujet à bras-le-corps et organisent un colloque public où ils invitent les plus grands spécialistes sous l'égide des loges maçonniques de Basse-Normandie.
Donc, club de réflexion, en fait, la franc-maçonnerie au lendemain de la guerre.
Alors, club de réflexion et qui va aller même plus loin, parce qu'à un moment donné, certains donc veulent faire un petit peu bouger le côté conservateur de la région. Et à Caen, ça va aller assez loin, puisqu'en fait, certains frères vont se dire, tiens, pourquoi on ne mettrait pas à disposition le local pour des associations qui ne peuvent pas se réunir à Caen, parce que la municipalité fait tout pour les empêcher de se réunir. Alors, vous avez par exemple au moment où François Mitterrand, par exemple, crée la Convention des institutions républicaines, la CIR.
Alors, on est à quelle époque, là?
Là, on est dans les années 50, enfin 50, 60. Il y a une réunion publique où François Mitterrand devait intervenir devant quelques militants. Alors, à l'époque, réunion publique, hein, ils étaient une cinquantaine, pas plus, que voilà, hein, c'était les débuts. Ils ne réussissent pas à trouver de local, parce que la ville ne veut pas leur prêter, donc ils se réunissent dans le local, dans le temple maçonnique, en fait, à Caen, qui est mis à disposition, puisque, enfin, pour avoir un au nom de la liberté d'expression, au final, quoi. Donc, le local est ouvert. Et on va s'apercevoir que ce local va s'ouvrir, après mai 68, à beaucoup d'associations, de mouvances politiques, qu'on qualifierait aujourd'hui plus d'extrême-gauche. C'est intéressant de voir, par exemple, la franc-maçonnerie a joué un rôle important pour la création en province du planning familial, des antennes du MLF, par exemple, ou du MLAC, le mouvement pour la liberté, pour le droit à l'avortement, la contraception. Et la loge de Caen va diffuser, au début des années 70, un film qui dénonçait les avortements clandestins dont les femmes françaises étaient obligées de faire en allant en Belgique ou en Suisse, à travers un film documentaire de témoignages de ces femmes qui s'appelait Histoire d'A, pour Histoire d'amour. Le film était interdit. Et donc, il va être diffusé, malgré tout, dans les locaux. J'ai retrouvé des anciens militants de ces mouvements-là qui se souviennent de cette projection sous la menace de l'arrivée de la police à tout moment pour saisir le film.
si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie sur les livres de notre invité, Emmanuel Thiébaut. Parmi ses livres, Le musée secret de la franc-maçonnerie, paru chez Grunt. Et puis aussi, Qui sont les francs-maçons chez Omnibus, deux livres que l'on vous offre cette semaine. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur notre site francebleu.fr. Vous précisez bien que c'est Normandie, Calvados et Orne pour être dirigé vers le formulaire que vous remplissez avec vos noms et vos coordonnées. On fera un tirage au sort demain après-midi parmi tous les inscrits pour gagner ces deux livres d'Emmanuel Thiébaut. France Bleu.